évidemment.
Vos appels pour Umberto Eco, invité de France Inter jusqu'à 9h05 au standard au 01 45 24 7000. Ce sera dans quelques minutes après la revue de presse. Il est 8h30. Et c'est avec Bruno Duvic. Bonjour Bruno.
Bonjour à tous.
À la une ce matin, des rebondissements en série.
Si c'était une série télé, elle s'appellerait Le Quinquennat. Nous sommes déjà à la saison 4, scénariste et acteur vedette Nicolas Sarkozy. Le pitch, l'intrigue de la série, le héros retrouvera-t-il les sommets atteints en 2007?
Et comme dans toute bonne série télé, il y a des intrigues dans l'intrigue.
Première question, le héros peut-il faire passer des réformes difficiles? Mot-clé, retraite. Les lycéens s'en mêlent. C'est la une de la Charente Libre, mais aussi de l'Ardennais, les lycéens débrayent. De l'Est républicain, les lycéens dans la rue, retraite, ça monte, titre encore Le Progrès. Mardi, je vous avais largement parlé de la situation à Marseille, là où le mercure monte le plus dans le thermomètre. À la une de la Provence aujourd'hui, grève, le grand blocage est annoncé. Dans la région, selon le quotidien, du port jusqu'au lycée, la mobilisation fait tache d'huile, il y a un parfum de grève illimité. Des lycéens, petit cortège pour l'instant, mais aussi des infirmières, des postiers, des caissières de Monoprix, des chômeurs, des surveillants de collège, des agents des impôts, grogne variable, diffuse, manifestation pétard mouillé ou plus grande détermination comme les dames des cantines à Marseille. C'est localisé, c'est diffus, c'est confus, mais pour la Provence, tout se passe comme si la réforme des retraites servait d'ores et déjà de trame au ralliement de toutes les inquiétudes. Commentaire d'un chercheur à Sciences Po, spécialisé dans les conflits sociaux, toujours dans les colonnes de la Provence. Élargir le mouvement peut le faire basculer. On ne joue pas un remake de 95, mais plutôt de 68, carrément. Il y a un malaise diffus au sein de la population française qui renvoie à un malaise sociétal plus profond que celui déclenché par la réforme des retraites.
Malaise en France, c'est aussi une analyse d'Éric Leboucher dans Les Échos.
Dans le débat politique, les références à la Seconde Guerre mondiale et au régime de Vichy reviennent comme une obsession. Pour Éric Leboucher, il y a aujourd'hui un syndrome de juin 40. La France est dans une étrange attente, dans le mauvais pressentiment d'un proche effondrement. Les grèves contre la réforme des retraites ne sont que la crispation corporatiste du malaise général juste avant la débâcle. La France, poursuit Leboucher, a du mal avec la mondialisation. Face à la guerre économique d'aujourd'hui, appelons-la guerre chinoise, notre armée, qui porte le nom de système social, est enfoncée. Le président actuel est incapable de reconnaître que ses promesses de pouvoir d'achat n'ont plus cours. Il se ment à lui-même, il ment aux Français.
Le héros du quinquennat est donc en difficulté. Comment va-t-il réagir?
En lâchant du lest sur deux points. Retraite, certaines mères de famille et les parents d'enfants lourdement handicapés pourront partir à taux plein à 65 ans. Et puis deuxième point, dans le camp de Nicolas Sarkozy, une centaine de députés ouvrent une autre brèche. C'est à la une du Figaro. 97 députés UMP pour la fin de l'ISF et du bouclier fiscal. Il y a un lien entre les deux, bouclier fiscal et retraite. C'est Patrick Flukiger qui explique dans l'Alsace. Le bouclier fiscal rend incontestablement la réforme des retraites plus difficile en dévalorisant les notions de justice et de solidarité sur lesquelles s'appuie notre protection sociale. Le président n'a pas mesuré à quel point la mobilisation syndicale s'appuie sur ces gages donnés aux amis du pouvoir. D'ailleurs, le député UMP du Maine-et-Loire, à l'origine de l'ouverture de la brèche, Michel Piron, le dit dans le Figaro. Cette question très lourde du bouclier remonte de partout dans nos circonscriptions.
Alors on verra si ces gestes apaisent le climat dans les jours à venir, mais il y a une autre intrigue dans la série.
Les affaires et les polémiques, elles ont pour nom Bettencourt, Karachi, Sécurité. Bettencourt, nouvelle pièce au dossier dans Marianne cette semaine. La dame est-elle dans la forme éblouissante dans laquelle nous l'a présenté Paris Match la semaine dernière? Sans doute pas. Marianne fait état d'un examen médical en 2007 qui concluait à une atrophie cérébrale. Est-ce une affection courante pour une dame de 87 ans ou une preuve de faiblesse? La noria de médecins autour de l'héritière de L'Oréal multiplie les propos contradictoires. En tout cas, les traces de cet examen ont mystérieusement disparu du dossier médical de Madame Bettencourt. Marianne publie les témoignages de proches de la milliardaire, comme son aide-soignante jusqu'en 2007. Elle m'appelait très souvent André, elle me prenait pour son mari. Derrière cette affaire Bettencourt, il y a le spectre d'un financement illégal de la campagne en 2007. Aucune preuve formelle établie par la justice. Autre affaire pleine de spectre, l'attentat contre les salariés français des constructions navales en 2002 à Karachi au Pakistan. Est-ce un geste de vengeance? La réponse à l'arrêt de versement de commissions occultes? et les dites commissions ont-elles donné lieu à des rétro-commissions qui auraient financé la campagne d'Édouard Balladur, cette fois en 95. Là encore, pas de preuves formelles, mais depuis hier, le juge Van Ruinbeck enquête plus précisément sur 10 millions de francs versés en liquide sur les comptes de campagne, c'est-à-dire notamment dans Le Parisien et Libération. Pour mémoire, Nicolas Sarkozy était alors ministre du budget, puis trésorier de campagne d'Édouard Balladur. Bettencourt, Karachi, point commun aux deux affaires, les procureurs freinent le travail des juges d'instruction. Commentaire de Dominique Garraud dans la Charente Libre, de nouveaux freins dégraderaient encore plus l'image de l'État impartial promis par Nicolas Sarkozy lors de son élection à la présidence.
Quoi d'autre dans la presse?
On parlait des affaires à la Une du Monde et de Libération, un fichier illégal qui cible les Roms, interdit en France. Il a été utilisé de 92 à 2004 au moins, ce qui implique aussi des gouvernements de gauche, donc. Quatre associations qui défendent les Roms et les gens du voyage ont déposé plainte. Sarkozy et les catholiques, le président chez le pape aujourd'hui pour reconquérir l'électorat catho. C'est à la une de La Croix notamment. Allez, fin provisoire de notre série Le Quinquennat. Dans l'actualité, encore une photo. Vous vous souvenez de la campagne pour les soutiens-gorge Wonderbra, regarde-moi dans les yeux. Elle est détournée en Belgique. C'est toujours une très jolie fille blonde, toujours un soutien-gorge bien rempli. Signe particulier, à droite, le mannequin n'a pas d'avant-bras. C'est une campagne pour l'équivalent du Téléthon belge pour les personnes handicapées. Regardez-moi dans les yeux, j'ai dit les yeux. Et puis Patrick Cohen, pour alimenter votre conversation avec Umberto Eco jusqu'à 9h, trois petites informations. La découverte d'une langue oubliée dans le nord-est de l'Inde, c'est-à-dire dans le Figaro. Elle s'appelle le Koro. Seulement 800 à 1200 personnes parleraient Koro. Selon le Figaro, il y a 6909 langues recensées en usage dans le monde. Dans Le Monde, le journal cette fois-ci, une initiative de l'Académie royale espagnole, la lecture mondiale du Don Quichotte de Cervantes sur Internet. L'œuvre a été divisée en plus de 2000 extraits. Ceux qui le souhaitent et qui parlent espagnol peuvent enregistrer un passage et au final, cela donnera une lecture mondiale sur le net des aventures du chevalier à triste figure. Et puis la définition de la littérature par le nouveau prix Nobel, Mario Vargas Llosa, c'est à lire dans Libération. La littérature exprime une vérité qui n'est ni historique, ni sociologique, ni ethnologique. C'est une vérité glissante faite de mensonges. Bonne journée.
Bonne journée Bruno Duvic. Et c'est un expert en mensonges qu'on a dans ce studio aujourd'hui, Umberto Eco, invité de France Inter jusqu'à 9h05.
Le 7-9, Patrick Cohen. Umberto